peut-être de mon intervention, c'est comment et qu'est-ce que bien parler des animaux. Et je crois que deux mots me semblent nécessaires pour l'expliquer. J'ai été amené depuis peu d'années, depuis 3-4 ans peut-être, à m'intéresser à l'écologie et à l'éthologie, et j'ai donc, dans cette direction, fait quelques lectures, livres et articles. Bon. À l'expérience, il s'est avéré que certains livres me satisfaisaient pleinement, d'autres non. Et voici finalement ce qu'une première réflexion me fit dire sur cette première impression. Les ouvrages qui me satisfaisaient pleinement pouvaient être caractérisés par leur aptitude à lier de façon très intime deux choses. Une très solide connaissance du monde animal d'une part, car c'était bien les connaissances que je cherchais, mais d'autre part, un très grand souci du monde animal, un très grand respect et une très grande familiarité avec lui. Donc voilà l'hypothèse générale sur laquelle je vais m'orienter. Ces ouvrages qui me satisfaisaient donc liaient ces deux choses intimement, et c'est cela que je vais interroger maintenant et tâcher de justifier. Je mentionnerai très brièvement ces quelques ouvrages qui effectivement m'ont apporté satisfaction là-dessus. Ce sont les ouvrages de Lorenz essentiellement, de Franz de Waal, qui est un primatologue fameux, mais aussi certains articles du Courrier de l'environnement de l'INRA, où je semblais trouver aussi exemplaire de cette rhétorique. Alors, d'abord, je voudrais justifier très généralement cette approche qui est la mienne ici et qui s'intéresse aux façons de parler et qui s'intéresse à la rhétorique. Et ici, finalement, je vais me recaler avec l'intervention précédente. On peut, me semble-t-il, distinguer deux niveaux dans ce que nous nommons la connaissance de l'animal. Le premier niveau est celui que, avec Montaigne, je nommerais le commerce avec les animaux, ou bien encore la familiarité, pour reprendre ce terme à Pierre-François Moreau et maintenant aussi à l'intervention précédente. Nous avons, disait Montaigne, quelques commerces avec le monde animal, et qui sait finalement si, quand je me joue avec ma chatte, ce n'est pas plutôt elle qui se joue avec moi, donc qui le sait, en effet, quoi. Ce niveau est celui du chasseur, qui connaît l'animal qu'il poursuit, qui lui prête comme spontanément intelligence. C'est encore celui, ou c'était celui du fermier, qui connaissait ses bêtes et les nommait. Et c'est encore aujourd'hui celui de l'éthologue, que ce soit en laboratoire, dans les eaux ou bien dans la forêt, qui aussi connaît ses animaux et commence à les nommer. À ce niveau du commerce se jouent des choses relativement étranges, mais dont, en un sens, nous ne doutons pas. Ainsi, par exemple, dans un article récent du journal Le Monde, mais à nouveau, vous l'avez entendu aussi il y a une dizaine de minutes, Le Monde expliquait, donc pourtant j'en ai sérieux Le Monde, quoi, quand même, quoi, bon, expliquait la dépression et l'augmentation du taux de suicide chez les paysans du Cantal en invoquant, entre autres causes, à savoir la difficulté économique et la difficulté de trouver une conjointe pour les paysans, la détérioration du rapport animal, du rapport traditionnel et familier aux animaux de la ferme. Donc le sort fait aux animaux d'élevage aujourd'hui déprime ceux qui en étaient les plus proches. Et je crois que l'on aurait fait sourire David Hume sur ce point en disant que, ou pour expliquer cette déprime, que finalement les gens anticipent ce qui leur arrivera par la suite. Je crois qu'avec Hume, on peut dire qu'il y a là la destruction d'une forme de sympathie qui nous serait propre. Étrange encore, mais pas moins, me semble-t-il, très compréhensible, enfin je crois le comprendre, cet aveu de Jane Goodall, célèbre primatologue, disant que la femelle chimpanzé Flo, qu'elle fréquenta longtemps, lui rendit, je cite, la possibilité d'être mère. Bon. Étrange formule, là encore, mais qui je crois, en tout cas, que je crois comprendre, et qui ne se réduit nullement, bien sûr, à un simple transfert de comportement de la femelle chimpanzé à elle. Et elle nous renvoie, ou cet exemple-là, cette anecdote-là, nous renvoie bien sûr aussi à ce qu'on appelle l'animalothérapie, en particulier à l'hypothérapie, immortalisée par moi par cette boutade d'un médecin du roman de Samuel Butler, Ainsi va toute chair, qui propose à son patient nerveux une simple cure de vache. Allez voir les vaches dans un champ et vous verrez que ça va aller beaucoup mieux. Bon, ce sont des boutades, et j'ai bien conscience que ce sont des boutades. Bon, mais en même temps, il me semble que la difficulté de ces faits et leur caractère étrange ne doit pas annuler l'essentiel ici, qui est la notion de commerce et le fait qu'il y a bien, en effet, des échanges, même si ceux-ci sont difficiles à saisir. Il me semble en plus que c'est vraiment à ce niveau-là du commerce que se situe la plupart des réflexions philosophiques, en particulier et Montaigne, mais aussi Lévi-Strauss, Deleuze, bien évidemment, et aussi Heidegger. C'est à ce niveau que se pose la question d'un anthropomorphisme légitime et d'un anthropomorphisme non légitime, ce que Franz De Waal a appelé pour sa part un anthropocentrisme. Bien. Mais bien sûr, c'est donc le niveau de tous les dangers, hein, c'est, bien sûr. Mais en même temps, il me semble encore une fois qu'il n'est pas, pour cette raison-là, éliminable sans précaution. Voici une évocation brève du sous-premier niveau. Le deuxième niveau auquel on peut se situer quand on parle de connaissance du monde animal, est le niveau peut-être plus évident pour nous aujourd'hui, la connaissance du monde animal au sens objectif du terme. C'est là qu'il s'agit de construire des connaissances objectives et scientifiques de ce que sont les animaux, dans leur diversité multiple et dans leur milieu respectif. Il ne s'agit pas ici de commerce, il ne s'agit pas de faire état d'un commerce avec le monde animal ou avec tel ou tel animal. Pour reprendre le cas de Jane Goodall, celle-ci ne serait pas la primatologue réputée qu'elle est si elle s'était contentée du récit que j'évoquais plus haut. Elle nous a appris ce que sont les chimpanzés, comment ils vivent, et c'est bien ce que nous cherchons dans les livres d'éthologie. Ce deuxième niveau est naturellement dans un rapport complexe au premier. Très certainement, il entre dans un rapport critique. Et plus précisément, il me semble qu'il entre dans un rapport d'exigence de plus grande détermination. On n'y parle pas ou guère de l'animal en général, on n'y parle pas non plus de tel ou tel animal au singulier, de telle histoire, de tel ou tel animal, mais on y parle justement des animaux dans leur spécificité. Mais je crois, bon, au-delà de ce rapport critique, que ce premier rapport ne s'arrête pas là, et c'est ici que va se situer mon hypothèse. Alors je crois en effet qu'il y a, au-delà de ces deux premiers niveaux, un troisième niveau, que je définirais formellement comme le retour ou le maintien du premier dans le second, ou bien le travail du premier dans le second, exactement comme le second intervient sur le premier. Beaucoup d'éthologues l'affirment très clairement en disant par exemple qu'un certain anthropomorphisme est non seulement utile, mais nécessaire à la pratique de leur métier. Ils le disent encore en se servant du modèle du fermier ou encore du chasseur pour penser le rapport à leur propre travail. Ici, à ce troisième niveau, il me semble donc que le sujet de la science n'est pas un sujet clivé, et en tout cas, il faudrait dire que la séparation entre ce que j'ai appelé le commerce d'un côté et les connaissances de l'autre ne signifie pas clivage, et c'est d'ailleurs précisément ce clivage qui est régulièrement dénoncé par les éthologistes à travers la critique si fréquente chez eux de l'approche purement behavioriste ou comportementale, enfin, skinnerienne, de la connaissance des animaux. Donc voilà mon hypothèse. Je crois qu'il y a un troisième niveau de connaissance réalisé dans certains livres, qui est en fait l'articulation du premier et du second, ou bien l'insistance du premier en termes de commerce dans le second. Alors pour préciser un peu cette hypothèse, je voudrais faire l'analyse suivante. De Baudelaire, Walter Benjamin disait que ses poèmes reflétaient l'expérience de la ville. Il voulait dire par là que, à la différence d'autres poètes, qui avaient seulement pour but de décrire la ville, Baudelaire, quant à lui, était plus préoccupé d'enfoncer l'image dans le souvenir que de l'orner et de la peindre. Baudelaire, donc, selon Benjamin, ne parle pas tant de la ville qu'il cherche à l'exprimer. Plus exactement, il dit nos rapports à la ville, et ses poèmes veulent exprimer le rapport que nous avons ou que nous sommes à la ville. Eh bien, je dirais la même chose pour les sciences, ou pour le discours scientifique. Je dirais que en tenant compte des différences, et particulièrement en tenant compte du fait que les scientifiques nous disent, ou doivent nous dire, ce que sont les animaux, je crois que les éthologues font eux-mêmes, et font faire aussi à ceux qui les lisent, cette expérience du commerce à travers ce qu'ils disent avec les animaux. Et que cette expérience-là, ils la font non pas en la déclarant, mais plutôt par la rhétorique qu'ils emploient. Voilà, donc quelle est donc cette rhétorique ? Quelle est donc cette rhétorique ? C'est ce que je vais chercher à voir maintenant, en précisant que si, de plus, elle doit recueillir à travers la discipline scientifique ce qu'il en est du rapport au commerce au monde animal et au vivant en général, alors elle ne doit pas être totalement indépendante de tout ce qui a pu se dire sur le monde animal, sur l'animalité en général ou sur le vivant en général. Et cette remarque sera une invitation pour moi à lier les critères de cette rhétorique avec ce qu'on a pu dire sur le monde animal. Le premier trait de cette rhétorique est ce que j'appellerais une rhétorique du montrer. On la trouve présente chez beaucoup d'éthologues, mais également chez certains écologistes. Pas un seul ouvrage d'éthologie générale qui n'évoque les multiples faits attestant de la diversité, de la richesse, de la haute complexité des compétences animales. Les perroquets de Pepperberg, les chimpanzés et maintenant les bonobos, Kanzi, Flo, qui sont des noms de bonobos, mais un chimpanzé, dont l'intelligence ne cesse de nous surprendre, les orques, chez qui on repère, semble-t-il, une aptitude à éduquer activement leurs petits, les phénomènes, enfin, où l'on peut à bon droit, semble-t-il, parler de culture chez les animaux. Donc pas un seul ouvrage d'éthologie générale qui n'évoque ces phénomènes, en effet, déconcertants. Toutefois, ces faits sont reliés dans des rhétoriques extrêmement différentes. Chez certains, on les trouve enrobés d'une rhétorique, je dirais, militante et au fond édifiante. C'est-à-dire, dans ces cas, d'une rhétorique qui entend bien nous convaincre de la continuité des animaux à l'homme ou encore de la très grande proximité des animaux et de l'homme. Continuité et proximité n'ont pas la valeur ici de principes ou d'hypothèses qu'il faudrait examiner, mais de vérité dont il faudrait convaincre un esprit prompt à les refuser. Toujours plus haut, semble dire cette rhétorique, les animaux sont capables de choses qui n'ont pas fini de nous étonner. « Almost human », disait un titre d'un livre de 23 de Robert Yerkes à propos des chimpanzés, comme si la meilleure chose qui pouvait arriver aux animaux était de nous ressembler. Tout se passe ici comme si non seulement on voulait défendre une thèse, mais qu'on voulait la défendre contre un interlocuteur a priori rétif, l'on s'adresse à son esprit, dans une position un peu paranoïaque, quoi, avec toute une rhétorique très puissante. Tout autre est, me semble-t-il, l'attitude de quelqu'un comme Franz de Waal. Si l'on trouve chez lui la position d'un tel interlocuteur sceptique, qui ne croit pas trop qu'il y aurait chez les animaux un peu d'intelligence ou d'émotion, ou des choses bon, qui rapprocheraient de l'humain, tout autre donc est son attitude. D'abord, l'interlocuteur est précisé. L'interlocuteur est cerné, généralement, il renvoie à certaines situations, certaines écoles, certains clivages dans les disciplines ayant pour objet le vivant ou l'animal. On ne s'en prend pas à une supposée conscience commune, générale, supposée stupide, et qu'il faudrait éclairer. Ensuite et surtout, la réponse qu'il donne est généralement celle-ci. Cet interlocuteur rétif, emmenons-le voir, emmenons-le sur nos terrains et dans nos eaux, et il verra de lui-même, il verra finalement que les animaux sont plus intéressants qu'on ne le pense, et que ce n'est pas sans raison, si l'on peut parler à leur propos, de courage, d'expression de pardon, de rire, de réconciliation. Il verra d'ailleurs où il ne verra pas, et parfois même il refusera de venir voir, arguant en particulier ceci, et là je cite une réplique qu'on a faite à Franz de Waal, « À quoi bon ?» Il nous sera plus facile de rester objectifs si nous ne sommes pas influencés. Ainsi, en suivant une telle rhétorique du simple montrer, on s'expose à un refus de venir et peut-être aussi un refus de voir, mais tout se passe comme si cette rhétorique où il s'agit seulement d'emmener voir avait assumé cette relative impuissance. Ainsi, je voulais dégager en premier lieu le profil d'une rhétorique du montrer. Elle s'oppose et se distingue, en tout cas, d'une rhétorique du convaincre. Ici, il ne s'agit pas de chercher à convaincre, il s'agit purement et simplement de donner à voir. Donner à voir, non pas tant pour chercher à persuader, mais montrer, et montrer comment soi-même on en est venu là. Une telle rhétorique ne s'adresse pas à l'esprit, si l'on entend par esprit cela qui ne se laisse convaincre que par des raisons, ou par la puissance des images et des exemples. Je ne dirais pas pour autant que la rhétorique du montrer ne s'adresse qu'au sentiment, car je reconduirais une opposition dont précisément, me semble-t-il, cette rhétorique du montrer oblige à sortir. C'est enfin une rhétorique relativement impuissante et qui se sait comme telle. Maintenant, en quoi cette rhétorique convient-elle au monde animal ? Ceux-ci ne parlent pas. Il ne s'en suit pas pour autant que l'on doive parler pour eux ou à leur place. Il s'en suit plutôt que l'on doit présenter les choses de façon à ce que l'interlocuteur rétif se laisse toucher, trouve intérêt là, accepte de se poser certaines questions. Ce premier trait doit être immédiatement complété par un autre, ou même par deux autres, qui lui donnent son sens. Je nommerai le second une rhétorique du temps lent et du temps lourd. Mais aussi, bon, du temps long. Dans les œuvres d'Aldo Leopold, qui est un écologiste fameux aux États-Unis, on trouve, dans ses descriptions qu'il fait de la nature et des espèces animales, toute une rhétorique du temps long, c'est-à-dire une rhétorique qui cherche à intégrer la temporalité humaine dans des rythmes beaucoup plus longs et lents. Dans, par exemple, Almanach d'un comté de sable, il s'entend parfaitement à entremêler différentes temporalités, et je vais vous donner un exemple de cette rhétorique-là. C'est dans l'Élégie des marais, qui est un passage de cet ouvrage, donc Almanach d'un comté des sables. Il parle d'un marais, bon, qui est devant chez lui apparemment, quoi. La sensation du temps pèse très lourd sur un lieu comme celui-ci. Chaque année, depuis l'ère glaciaire, ce marais est réveillé au printemps par la clameur des grues. Les couches de tourbe qui le construisent sont déposées dans le bassin d'un ancien lac. Les grues se tiennent en quelque sorte sur les pages détrempées de leur propre histoire. Ces tourbes sont les restes compressés des mousses qui encombrent les étangs, des mélèzes qui s'étendaient par-dessus la mousse, des grues qui claironnaient par-dessus les mélèzes devant le retrait des glaciers. Une caravane interminable de générations a construit de ses propres ossements ce pont vers le futur, cet habitat où de nouveaux hôtes pourront vivre à nouveau et procréer et mourir. Bon. Voilà un exemple. C'est vrai qu'on pourrait faire beaucoup de commentaires, mais bon, je tairai ici. Mais je voulais montrer comment il y en a une rhétorique qui articule différentes temporalités et dans lesquelles se situent les temporalités humaines et elles-mêmes sont diverses. Mais je crois, et plus profondément, qu'il y a une autre façon de faire sentir ce que j'ai appelé ce temps lent et lourd. Et il me semble qu'elle m'est fournie à nouveau par ces travaux de Franz Duval. Ces temps longs, ce temps surtout lourd et lent, peut se montrer plus efficacement par la lenteur et la lourdeur de ce que sont d'abord les protocoles mêmes d'observation. C'est bien sûr la lourdeur et la méticulosité de l'appareil statistique, qui est toujours évoquée, mais comme en sourdine. C'est aussi la lourdeur de l'observation elle-même. Il faut avoir l'attention bien accrochée, bien stabilisée, pour accepter de rester devant une tribu de singes, en sorte que l'individu observateur devient capable de les individualiser, de les reconnaître chacun, puis de suivre ce qui arrive après chaque altercation pour chacun des singes. Ce à quoi j'ai trouvé, me semble-t-il, intérêt, ou ce qui m'a satisfait ici, c'est l'évocation latérale, discrète, mais toujours présente, de cette lenteur et de cette lourdeur du temps de l'observation. On n'a pas simplement d'un côté les résultats brillants ou surprenants de la science, et de l'autre, réservé aux seuls spécialistes, la description des protocoles d'observation. Les deux se mêlent intimement et ne se séparent pas l'un l'autre. Mais quel est l'effet de cette rhétorique? Pour bien le dégager, ici, j'appuierai sur un exemple concernant les macaques-ours, ce dont on pourrait trépaner sans aucun problème, quoi, d'après l'interlocuteur de ce matin. Bon. Mais bon, je ne lirai pas le passage, mais, parce que là, je n'ai pas le temps, manifestement, où il parle des macaques-ours, et où finalement, il nous rend sympathique cette espèce de singe, tout de même. Alors pourquoi? Je résumerai. C'est un passage où il dit, les processus de réconciliation chez les macaques-ours, comme chez les chimpanzés, sont massivement, 94%, des processus de reconnaissance de statut par l'inférieur du supérieur. Mais, cependant, 6% échappent à ce point. En 6%, en effet, les initiatives de réconciliation viennent du mâle dominant. Bon, comment expliquer ça? Problème, il évoque différentes hypothèses. Bon, 6%. Enfin, dernier exemple, Joey et Honey. Bon, c'est deux individus qui mettent la course. Bon, là, il faut les repérer. Quoi. Bon. Alors, Joey et Honey ont un comportement assez amusant et assez intrigant. Joey est un mâle dominé, il n'a pas le droit d'user des femelles à ses fins, et pourtant il le fait. Bon. Donc il part avec une femelle qui est précisément, qui est honnée. Bon. Et au moment où il prend son plaisir, apparemment, un cri. Bon. Et la femelle se retourne vers lui, et lui fait ça. Bon. C'est apparemment, voilà ce que apparemment les observations longtemps sur le fait très longtemps sur les animaux, un jour un singe qui à son copain pour pas qu'on l'entende quoi. Bon, ça montre ça apparemment quoi. Bon, alors maintenant je ferai des commentaires très brefs sur cet aspect des choses. Première chose, présence latérale et constante de l'appareil statistique, comme je le disais plus haut. La prise en compte de pourcentages faibles en tant qu'il montre et exhibe un fait nouveau qui pose question. On n'a pas ici une opposition entre le typique et le singulier, mais ce dernier est présent comme l'obstacle qui permet et exige que l'on dépasse la première généralisation. Et sur ce point, on peut difficilement pas penser à Canguilhem, disant dans une ligne bachelardienne, le singulier joue son rôle épistémologique, non pas en se proposant lui-même pour être généralisé, mais en obligeant à la critique de la généralité antérieure par rapport à quoi il se singularise. Deuxième remarque. Ce qui est présent dans ce texte et qui me semble extrêmement important, c'est qu'il y a une continuité entre le comportement typique, le comportement rare et le comportement rarissime et individualisé, Joey et Honey. Avant, ce n'est pas individualisé. À ce niveau-là, c'est individualisé. Aucun de ces aspects n'est privilégié par le chercheur. Et en particulier, le comportement rarissime n'est pas le seul présenté. Les deux, le comportement typique, le comportement rare et le comportement rarissime, sont présentés simultanément, en sorte que l'attention est conviée à les prendre conjointement en vue. Le comportement animal est à la fois et simultanément typique et singulier. Et ça met à l'écart toutes les rhétoriques où on a soit d'un côté que le typique, qui sont extrêmement fréquentes, soit de l'autre que le singulier, qui sont aussi extrêmement fréquentes. Bon. Donc là, je crois que l'intérêt d'une telle rhétorique, c'est précisément d'articuler ensemble et conjointement ces trois niveaux, hein, typique, rare et rarissime, et donc individuel. Ce qui apparaît aussi, c'est bien que la réconciliation, ce qui apparaît aussi, c'est bien que la notion de réconciliation, donc Franz De Waal a cherché à mettre au jour, n'est pas comme quelque chose comme une forme servant à identifier une espèce, n'est pas une propriété d'une espèce, mais est plutôt une problématique générale permettant de mettre en rapport et de rendre visible par contraste la proximité des différentes espèces de singes, autant que la diversité de certains comportements. Il écrit ceci, « Nous comprenons maintenant que ces individus qui se livrent à des bagarres intestines ne sont en aucun cas les primates exemplaires que nous avons cru, c'est sûr, et chaque espèce a développé ses propres variations sur le thème de l'organisation sociale. » Et là, je crois que je retrouve aussi un thème très important chez Canguilhem, qui est celui-ci. Canguilhem reprochait à Claude Bernard d'avoir été dominé par une épistémologie au fond platonicienne, en ce qu'elle opposait un ordre de la légalité et un ordre de l'accidentel. Il plaidait quant à lui pour l'idée que l'on doit, je cite, « considérer la vie comme un ordre de propriété, c'est-à-dire comme une organisation de puissance et une hiérarchie de fonctions dont la stabilité est nécessairement précaire, étant la solution d'un problème d'équilibre, de compensation, de compromis entre pouvoirs différents dont concurrent. La position de Franz De Waal et sa notion de réconciliation est exactement celle-ci. La réconciliation n'est pas le fait de certains singes, elle est une problématique générale qui permet de faire voir les solutions diverses et leurs contrastes. Enfin, et naturellement, toute cette description résonne chez nous, nous les humains. Je veux dire qu'il est difficile de lire ces pages sans se demander, par exemple, si le plus souvent, en ce qui nous concerne, et particulièrement en ce qui concerne le rapport aux enfants, les souhaits ou demandes de réconciliation ne reviennent pas finalement, la plupart du temps, à des demandes de reconnaissance du statut dominant, hein, et rien d'autre, quoi. Donc il y a cet exemple-là qui peuvent nous interroger nos fonctionnements de façon, me semble-t-il, assez profonde. Enfin, il y a un dernier niveau où se voit cette rhétorique du temps lent, c'est le rapport du chercheur aux préjugés et à ses propres préjugés. Ici, et là je vais très brièvement, je m'excuse, Les préjugés ne sont pas dénoncés comme forcément étrangers à la conscience scientifique. Ils sont repérés au sein même de la communauté scientifique. Et toutes les questions, justement, ou tous les débats cherchent à voir quels sont les préjugés des uns et des autres, à s'expliquer par rapport à cela. Ils sont repérés aussi au sein même de l'esprit du chercheur. Et là, on rentre dans une certaine éthique de la science où, justement, le chercheur n'a pas pour fin d'exclure le préjugé, mais plutôt pour fin de l'accueillir, de lui faire bonne figure, car c'est bien la condition pour qu'on puisse le dépasser. Excusez-moi. Enfin, et là, il faut vraiment que je me précipite. Hein. Bon, j'aurais voulu ici parler, après cette lenteur et cette lourdeur de la rhétorique que j'ai trouvée là, une rhétorique parcellaire qui intervient constamment. Donc, diversité des terrains d'observation, la grande forêt, les eaux modernes ou bien le laboratoire, et aucun n'est privilégié par rapport aux autres, et surtout pas le laboratoire par rapport aux autres, aucun n'est privilégié par rapport aux autres. Diversité aussi des approches nécessaires pour penser l'animal. Il faut conjoindre l'approche biologique, l'approche par groupe, l'approche individuelle, mais c'est vrai qu'il ne parle pas ici des recherches évoquées ce matin, c'est une limite peut-être de son œuvre. Et l'ensemble de ces différentes choses, dont on a parlé du temps long et du temps lourd, mais très théorique aussi parcellaire, m'amène à cette conclusion. Il me semble que la conclusion est celle-ci, quoi. Les animaux ne sont jamais tout à fait visibles. Et l'on se tromperait à vouloir voir absolument leur identité, qu'elle soit typique ou singulière. Autrement dit, et là je reprends cette expression à Franz de Waal, parce qu'elle me paraît extrêmement suggestive, des animaux, nous n'avons qu'une connaissance furtive. On ne voit pas toujours ce que l'on voulait voir, on voit souvent autre chose, et l'objet semble ici non pas tant se dérober, que plutôt jouer avec nous. Voilà pour le premier trait de cette rhétorique, une rhétorique du furtif, qui me semble finalement assez bien collée avec le monde animal. Bon, maintenant, il y aura une deuxième partie, c'est l'intérêt de la justice. Bon. Dans ces livres d'éthologues, on trouve extrêmement fréquemment le recours à la phrase suivante, « Dire cela, des chimpanzés, des bonobos, des macaques-ours, hein, tout ça, c'est des insultes. » Bon, pas seulement les erreurs, mais les insultes. Bien. Et j'aurais voulu montrer, mais donc je ne le montrerai pas, je vous le dirai seulement, que cette rhétorique des insultes n'est pas extérieure au travail scientifique, mais qu'à chaque fois, la prise en compte d'une insulte et la sensibilité aussi à une insulte, il faut être un peu sensible pour sentir une insulte, si vous voulez, bon, quand même, bon, permet aussi de revisiter certaines vérités ou certaines idées communément reçues, tenues pour vraies. Donc là aussi, ce que j'aurais pu montrer, enfin, ce que je pourrais montrer, c'est que l'attention à l'insulte, hein, n'est pas extérieure au travail du scientifique, mais qu'elle est au contraire nécessaire à ce travail. Et de ce point de vue-là, bon, lui est nécessaire. Bon. Donc je n'ai pas le temps de le montrer. Bon. Alors, quelques éléments de conclusion. Là, je fais vraiment une conclusion. Hein. Bon. Bon. Un élément polémique, quand même. Oui, bon. J'étais très surpris chez M. Kennedy ce matin. Je ne sais pas s'il est là, j'espère. Bon, tant pis, je le dis quand même. Vraiment. Mais il nous a... par la première réponse qu'il a donnée à la première question. Pour parler du cerveau, dit-il, il faut être humble et lent. Bon. Mais dans sa démonstration, il n'a pas été, oui, humble et lent, quoi. Et surtout pas lent, me semble-t-il. Oui, bon. Donc, bon, c'est ça, bon. Donc, moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est que, justement, la lenteur n'était pas simplement une déclaration comme ça, bon, c'est difficile, il faut respecter, et ainsi de suite. Ça pouvait aussi informer très profondément, hein, le travail des scientifiques, bon, et dans mon cas, beaucoup, des primatologues. Bon. Et par ailleurs, il me semble que ce n'est pas un hasard si M. Kennedy, bah, je vais dire quoi, ces travaux-là, quand même, bon. Mais si M. Kennedy travaille exclusivement en laboratoire, quoi. Bon. Alors qu'à l'inverse, vous avez chez M. de Waal, qui n'est pas là, le souci de développer l'observation en zoo et une méfiance à l'égard, non pas une récusation, mais une méfiance à l'égard du labo. Dernier élément de conclusion. Je crois que qu'on pourrait entendre cet exposé en disant que j'ai finalement tout simplement retrouvé quelques éléments d'éthique de la science, et que je n'ai pas parlé d'une rhétorique ajustée au monde animal, mais que j'aurais retrouvé certains éléments assez classiques finalement de l'éthique de la science. Bon, admettons que cette objection soit exacte. Bon, je ne le crois pas, cela dit. Bon, mais en admettant qu'elle est exacte, je voudrais dire ceci, c'est que comment les individus apprennent-ils une éthique? Bon, ben ils l'apprennent dans le rapport qu'ils ont à certains objets ou à certaines difficultés qui leur enseignent l'éthique. Bon, comme disait M. Duchesneau, je crois, hier, dans une de ses répliques, c'est l'objet qui éduque le chercheur, quoi. Vous avez dit ça, je crois, à la fin de... Bon, c'est l'objet qui éduque le chercheur, donc peut-être que l'éthique que l'on cherche aujourd'hui du savant, elle se trouve dans cet objet-là, en tout cas, moi, j'ai cru la trouver, dans cet objet que sont les primates.
Merci.